Je vous invite aujourd'hui à faire la connaissance rapidement d'un saint de l'Ancien Testament, Saint Élisée, très grand prophète, mais on en parlera brièvement. C'est un saint curieux de l'Ancien Testament, vous direz, mais il n'y a pas de saint dans l'Ancien Testament. Mais oui, j'ai même chez moi un ouvrage très très ancien qui date de plusieurs siècles, avec des saints pour tous les jours, tous tirés de l'Ancien Testament. Et Saint Élisée est même très vénéré aujourd'hui par les Carmes, et évidemment par nos frères juifs. Alors les Pères Carmes, qui sont installés depuis quelques années à peine, donc tout récemment, sur la rue Hamel à Montréal, doivent vénérer, je l'espère aujourd'hui, leur Saint Élisée qui a vécu sur le mont Carmel, n'est-ce pas, en partie. Et nous parlerons aussi brièvement de Saint Valère et surtout d'un saint qui m'est très cher, Saint Basile de Césarée, un docteur de l'Église, un très grand évêque. On retrouve le récit de sa vie dans le 4e livre des Rois. Bon, pour ceux qui connaissent moins les livres historiques de la Bible, parce que c'est pas toujours facile à lire, le 4e livre des Rois, qui se trouve donc dans l'Ancien Testament, et c'est au chapitre du chapitre 2 au chapitre 10. Le nom de Élisée veut dire en hébreu « Dieu est salut ». Dieu, c'est celui qui libère. Dieu, c'est celui qui nous sauve de la misère. Élisée. Il est avec le fameux prophète Élie, le géant, si on peut dire, des prophètes anciens. Tous deux, on peut dire, dominent tous les prophètes du 9e siècle avant Jésus-Christ. Ils ont exercé un pouvoir énorme, hein, un pouvoir de l'esprit, j'entends, pendant environ 70 ans dans le royaume du Nord en Israël. Ils étaient vraiment là, les porte-parole de Dieu, de celui qu'on appelait chez les Juifs l'Éternel. En revendiquant tous les deux, avec courage, qu'il fallait être fidèle à Yahvé devant les attaques des cultes païens. C'est pas d'aujourd'hui que les cultes païens attaquent les croyants. On le voit bien dans notre civilisation actuelle, c'est la même chose. Et à l'époque, c'était les cultes syriens. Je m'excuse à l'égard des Syriens, mais c'était comme ça à l'époque. Où on vénérait Baal et Astarté, deux dieux vraiment païens. Il faut lire au besoin dans le dictionnaire Baal, B-A-A-L, et Astarté, A-S-T-A-R-T-E, accent aigu. Regardez dans des gros dictionnaires encyclopédiques, vous y verrez que c'était pas facile, c'était pas drôle. Alors ces deux grands prophètes du Tout-Puissant se ressemblent vraiment, et dans les vieux récits de la Bible, on voit bien qu'ils sont différents. Élie, lui, a quelque chose de plus religieux et de plus moral, tandis que Élisée, le saint d'aujourd'hui, en ce 14 juin, est plus politique. L'histoire d'Élisée dans le livre des Rois, là, le 4e livre des Rois, du chapitre 2 au chapitre 10, a dû être composée au cours de la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, c'est assez disparate, c'est des petits récits brefs. C'est sans doute presque contemporain de cette époque. C'est peu précis. Il y a des centres d'action. Enfin, il y a le Carmel, le Mont Carmel, la Samarie aussi, là, vous savez, où vivaient les Samaritains. Il est question aussi de Jéricho. Où je suis allé à Jéricho en Israël, c'est fantastique de voir ça. Il y a là une tour enfouie dans le sol, hein, une tour qui date de 7000 ans. C'est absolument fantastique, c'est peut-être le plus vieux monument de l'histoire humaine. Et alors, on dirait que c'est une chronique de famille que ce récit sur Élisée. C'est une gerbe de souvenirs pour les intimes, c'est rédigé pour les prophètes. Vous savez que les grands prophètes comme ça avaient des petits prophètes autour d'eux. Un peu comme des moines, si on veut, avec un père abbé, là, avec des moines autour. Et il y a beaucoup de petits détails. Élisée était né dans un endroit qui a un très joli nom. J'aime beaucoup ce nom. Le pré de la danse. Un pré, n'est-ce pas, comme un chant de la danse, danser. Donc, il est né là, il était fils d'un riche laboureur. Il dirigeait lui-même une charrue et sa paire de bœufs, donc ils avaient de l'argent à cette époque. Et Élie s'approche de lui, lui jette sur lui son manteau. Pourquoi le prophète Élie met-il son manteau, lui qui est plus vieux, sur Élisée? C'est parce que c'est une façon, c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'investiture. Hein? Vous voyez la source du mot investiture, veste. Il y a le mot vêtement là-dedans. Une investiture, c'est mettre le vêtement de quelqu'un de puissant sur les épaules de quelqu'un d'autre que l'on nomme, que l'on élève. Alors Élisée demande à Élie la permission d'aller faire ses adieux à sa famille, puisqu'il est choisi comme prophète pour succéder à Élie. Et Élie lui dit, retourne chez toi, car en te sacrant prophète, je n'ai rien fait qui t'empêche d'aller prendre congé des tiens. Et alors, le disciple demande à son maître une part double, il est exigeant, dans la distribution de ses dons prophétiques. Il veut être encore un plus grand prophète qu'Élie. Il veut un plus pouvoir spirituel, intellectuel, moral. Alors, il tenait à avoir un droit d'aînesse aussi sur tous les autres jeunes prophètes. Alors, le signe qu'il était bien élu, c'est qu'il a assisté à cet événement. Vous savez, on en parle toujours encore aujourd'hui. Oh, les ésotéristes aiment bien ça. Et ceux qui croient aux extraterrestres en parlent aussi, vous me voyez venir. Hein, il a assisté à l'enlèvement au ciel du prophète Élie. Vous vous souvenez? C'est dans un tourbillon formidable, sur un char de feu, traîné par des chevaux de feu, que Élie est disparu dans le ciel, raconte le livre des rois. Hein. C'est là qu'on trouve ça. Et les anges, les puissances invisibles l'ont emporté avec elle, ce grand lutteur qui était Élie. Et Élisée, lui, a voulu éprouver tout de suite les vertus de ce manteau de prophète dont il avait été revêtu. Alors il a frappé les eaux du Jourdain, puis le fleuve, le Jourdain, a séparé ses eaux, dit-on. Puis Élisée est passé à pied sec. Ce sont des récits très étranges qui ont des sens. Il faut lire ces récits avec des bons commentaires pour en comprendre la symbolique. C'est un peu comme les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien comprendre le sens de ces récits. Alors la mission d'Élisée commence, elle est bienfaisante aux petits, mais elle est terrible aux orgueilleux et aux gens sans foi. C'est un prophète. C'est ça que ça veut dire, un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui rappelle à l'ordre et au bonheur ceux qui s'en sont détournés. Alors, lui, il se considère comme un ambassadeur du Tout-Puissant. Puis, il n'admet pas d'être moqué. Des petits-enfants, près de Bethel, lui ont crié, c'est là, dans le texte, hein, « Monte, chauve! Monte, chauve !» Ça me rappelle la nuit sur le mont Chauve, cette fameuse pièce. Mais monte chauve, c'est une insulte. Alors il se retourne, il maudit ces enfants-là au nom du Seigneur et on dit, mais je trouve ça ce récit épouvantable, deux ours, paraît-il qu'il faut prononcer ours quand c'est au pluriel, deux ours déchirent 42 de ses enfants. C'est terrible. Dans la Bible, on trouve des récits des fois. Hein, ça prend des bons commentaires. Alors, Élisée doit intervenir dans la politique et après un petit prélude de harpe, pas bête, il joue de la harpe. Il prédit alors aux rois qui sont alliés d'Israël, de Juda et d'Édom qu'ils vaincront Moab, l'ennemi. Il révèle au roi d'Israël les plans du roi de Syrie, le roi Moab. Et dans la Samarie, qui est assiégée et affamée, il annonce l'abondance. Les Syriens, en effet, vont lever brusquement le siège. Et alors, ses prédictions, alors il n'est pas rien que prophète dans le sens qu'il reprend les gens, mais il est prophète aussi, il voit un peu dans l'avenir. Il prévoit pour Joas des victoires sur la Syrie. C'est peut-être là qu'il y a cette espèce de mélange dans le sens du mot prophète. Mais si Élisée appartient au royaume du Nord, bien, il reconnaît vraiment que c'est Jérusalem, le sud, qui est le prééminent. Et puis, il est plein d'égards pour son roi, le roi de Jérusalem. Il tient à rehausser le prestige de Yahvé devant les étrangers. Il guérit même de la lèpre, le fameux général syrien Naaman. C'est une lecture qu'on entend des fois, ça. Et Naaman se convertit, mais Élisée, lui, il use envers lui d'une tolérance pleine de modération. Puis il y a des Syriens qui sont frappés d'aveuglement. Ils sont conduits à Samarie, puis sont renvoyés finalement à leur roi. Alors il ne voit pas des exécutions. C'est un politique quand même bienveillant. Il n'est pas cruel. Élisée parle en maître au roi de la terre. Il accomplit des merveilles pour le soulagement des pauvres. Et c'est de là que vient sa réputation de sainteté. Comme Élie, il procure à une veuve une récolte d'huile surabondante. À une riche Sunamite, hein, c'est une étrangère qu'il héberge généreusement, bien, il paie son hospitalité en ressuscitant son garçonnet qui est mort. C'est un très beau récit, je me souviens ça. Puis, bon, on s'en souvient tous d'ailleurs de ce beau récit. Puis il transforme aussi un potage amer, dit-on, et qui semblait empoisonné, en une soupe dont tous les jeunes prophètes purent manger. Ce sont de petits récits bien sympathiques. Il multiplie aussi les pains pour nourrir sa communauté de Gilgal. Il fait revenir sur l'eau le fer d'un outil qui était tombé dans le Jourdain. Alors, toutes sortes de miracles étranges et étonnants, des petits miracles. Et ainsi, ce thaumaturge prolonge l'action de son maître Élie. Il préfigure, voilà, les miracles de bonté de Jésus-Christ. Et ce n'est pas à dire qu'Élisée ne soit pas quelquefois sévère et dur, je vous l'ai dit, mais il voit même à ce que quelqu'un qui est plutôt méchant et cruel soit puni de la lèpre. Il y a un officier du roi d'Israël qui reçoit l'annonce de sa mort en châtiment de son incrédulité, mais Élisée n'est pas responsable des cruautés qui tombent comme ça. En somme, saint Élisée a pratiquement détruit le culte de Baal dans son pays. Et cependant, la conversion n'a pas été complète ni durable. Élisée est mort très âgé. L'année même de sa mort, son cadavre ressuscita, dit-on, un mort. On voit ça dans l'Ecclésiaste, au chapitre 48. Et son tombeau se voyait encore au temps de saint Jérôme dans l'ère chrétienne. Le fameux Julien l'Apostat l'avait violé. Mais quelques ossements, dit-on, furent sauvés et offerts à saint Athanase, dont il a été question il y a un mois. Ce grand évêque, Athanase. D'autres ossements d'Élisée, dit-on, ont été transférés à Alexandrie, en Égypte. Alexandrie, qui était une ville extrêmement importante à l'époque, en 463, puis aussi à Constantinople, Istanbul aujourd'hui, en Turquie. Constantinople, qui est le cœur, le centre de la grande église orthodoxe, qui est comme le poumon oriental de la grande église chrétienne, avec l'Église catholique qui est occidentale. Sur le culte de saint Élisée, il est mieux de consulter les Carmes. Comme je vous l'ai dit au début, les Carmes ont une vénération spéciale pour saint Élisée. Je vous ai dit que je vous parlerai de saint Basile, qui m'est très cher. C'est un évêque de Césarée. Bon, il a vécu il y a très longtemps. Pourquoi suis-je attaché à saint Basile? C'est que c'est un évêque vraiment exceptionnel, vraiment remarquable. Oh, exceptionnel. Il y a eu de très grands évêques dans l'histoire de l'Église, il y en a encore. Et on sait que saint Basile est né dans une famille où la sainteté semble avoir été héréditaire. Hein? Je vous signale que le père de saint Basile s'appelait aussi de ce même nom, Basile, et sa mère, Emmeline. C'est un nom qu'on voyait au Québec autrefois. Et ils eurent 5 enfants et 5 filles, qui sont tous passés dans l'histoire, mais surtout quelques-uns d'entre eux. Car des 5 garçons, si l'un mourut en bas âge, 3 ont été évêques. Saint Basile, dont nous parlons, son frère, saint Grégoire de Nice, c'est un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, et saint Pierre de Sébaste aussi, qui est un éminent évêque. Et puis, ils ont eu un frère, Nocras, quel nom, qui était le second, après avoir paru comme étant un très bon avocat, il s'est retiré dans une solitude où il est mort jeune. On dit qu'il avait une sainteté tout à fait exemplaire. Quant à l'aînée des filles de tous les enfants, c'est Sainte Macrine, la jeune, qui est très réputée à l'époque, mais elle a été oubliée de nos jours. Les quatre autres filles ont été très bien élevées par leur mère. Et Basile, lui, est né à Césarée de Cappadoce. C'est pour ça qu'on l'appelle Basile de Césarée. Basile, ça peut faire drôle. On a eu cette émission Cré Basile qui nous fait rigoler encore. Mais vous savez que c'est un nom sérieux. C'est un très grand nom. Il y a d'ailleurs une ville près de Montréal, un village, qui s'appelle Saint-Basile. Donc, il est né à Césarée en l'année 328. Vous direz, il y a si longtemps, pourquoi nous parler de saints qui ont vécu il y a si longtemps? C'est que notre foi d'aujourd'hui, de la fin du 20e siècle, de la fin du 2e millénaire, tire ses sources de ces hommes très courageux, de ces femmes extraordinaires qui ont vécu au début de l'Église et qui ont su être fidèles à l'enseignement de Jésus-Christ. Alors, il est né, lui, quelques mois, c'est-à-dire environ un an après son frère, Saint Grégoire de Nazianze. Son père, donc, était avocat, un avocat célèbre, un professeur, et il lui a fait enseigner dès le début les lettres, puis la rhétorique aussi, l'art de parler en public, hein. Alors, après l'avoir instruit comme ça par lui-même, il a voulu que Basile ait de bons maîtres. Il l'a envoyé à Constantinople, cette ville dont je vous ai parlé tout à l'heure, Istanbul, en Turquie, qui est au cœur, n'est-ce pas, de cette grande église orthodoxe. Malheureusement, ce n'est qu'une image aujourd'hui. Le primat, si on peut dire, de l'église orthodoxe, le patriarche habite Constantinople, qui est devenue une ville presque exclusivement musulmane. Alors c'est là qu'il a pris des leçons d'un célèbre professeur très réputé de l'époque, Libanius. Ensuite, il est allé à Athènes, et puis il a eu deux fameux professeurs. Et ce fut là qu'il a rencontré à Athènes Saint Grégoire de... son frère s'appelait Saint Grégoire de Nice, et là, il a rencontré Saint Grégoire de Nazianze. Il a contracté avec lui une amitié qui est un des plus excellents modèles de l'Antiquité. C'est extraordinaire, cette amitié qui s'est jamais démentie. On pourrait jamais apprécier à juste titre l'amitié de Saint Basile et de ce Saint Grégoire. Il a appris, là, la géométrie, l'astronomie. Et quand il a quitté Athènes, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait appris, qui était rare et précieux, après 10 ans, ça ne lui suffisait pas. Tout le monde avait beaucoup d'amour et de respect pour lui, on l'admirait. Mais quand il est arrivé à Césarée, s'il a prêché, il a plaidé plutôt en cour, parce qu'il était avocat, sa sœur Macrine, sa sœur aînée, Sainte Macrine, elle craignait qu'il devienne orgueilleux et puis qu'il devienne vain, ambitieux, et que son cœur se dissolve dans l'orgueil. Alors elle l'a persuadé petit à petit de quitter cette profession. Que finalement, s'occuper de toutes ces choses-là était bien peu de choses comparées à l'étude de la véritable sagesse, la connaissance de Dieu et de soi-même, la victoire de ses appétits, comme elle le dit, et la pratique des vertus chrétiennes. Alors, en peu de temps, il a fait un grand progrès dans cette voie, vers la perfection. S'il a été pris d'un dégoût du monde, de toutes les vanités du monde, un peu comme à la fin du siècle dernier, Charles de Foucault, qui est très connu, hein, et quantité d'autres au cours de ce siècle, c'est toujours un problème, ça. Les gens qui se rendent compte tout à coup de la vanité des choses superficielles et qui veulent tout à coup trouver vraiment un sens à leur vie. C'est d'ailleurs aujourd'hui l'anniversaire de la mort d'un des grands écrivains anglais, Chesterton, qui a été hanté toute sa vie, lui, ce grand humoriste, ce grand comique, qui a été hanté toute sa vie par la futilité des choses et la grandeur de la vie qui nous est donnée par Dieu. Chesterton est mort comme un très grand mystique. Pourtant, c'était un humoriste, un très grand écrivain de ce siècle-ci. Et alors, c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Donc, avant de s'engager dans la vie religieuse, Basile a décidé de faire un voyage en Égypte, en Syrie, en Palestine. Il est allé visiter les lieux saints, il est allé visiter les gens qui vivaient dans des ermitages. Il a voulu étudier leur manière de vivre, il a voulu être semblable à eux. Il souhaitait même devenir un ange, en blague évidemment. Et puis, à son retour, il a fait un recueil des principaux endroits de l'Évangile qui nous apprennent ce qui plaît à Dieu et ce qui lui est désagréable. C'est ce qu'on appelle ordinairement la morale de Saint Basile. Et ensuite, il a reçu les ordres mineurs, qui le préparent au sacerdoce, des mains de son évêque. Et puis, son évêque avait depuis longtemps une affection particulière pour lui. Il voyait bien chez Basile quelqu'un d'extraordinaire. Et il avait peur que ce Basile lui soit ravi par un autre évêque, alors il s'est empressé de l'ordonner comme ça. Et notre saint Basile n'avait pas visité les solitaires d'Égypte, de Palestine, de Syrie que par curiosité. C'était pas seulement pour admirer leur grande austérité, puis leur dégagement de toutes les choses de la terre, puis leur prière continuelle, puis les autres vertus qui les rendaient si célèbres. Mais c'était aussi pour les imiter, alors il s'y retirait le plus tôt qu'il lui fut possible dans une solitude. Saint Grégoire de Nazianze, son ami intime, va penser se joindre à lui pour entreprendre cette vie plutôt extraordinaire. Mais Grégoire de Nazianze était occupé à la maison à prendre soin de son vieux père. Il ne pouvait pas vraiment suivre son ami. Alors, Basile a commencé cette vie de moine sans lui, et il l'a fait avec tant de ferveur qu'il est devenu quelqu'un d'absolument exemplaire et qui nous est demeuré exemplaire jusqu'à nos jours. Mais Saint Grégoire, après un certain temps, a décidé de venir le trouver, et ils ont vécu tous les deux dans une rigueur terrible, mais aussi dans un esprit de prière profond. Alors ce Saint Grégoire de Nazianze et Saint Basile de Césarée ont été formés par l'esprit monastique. C'est toujours ce qui habitait notre Église, ce caractère monastique qui peut-être déforme notre spiritualité jusqu'à un certain point. Alors il ne faut pas trop insister sur l'aspect austère de leur vie, mais de toute façon, ils ont écrit ensemble une règle, c'est surtout, elle est connue comme la règle de Saint Basile, elle est très importante, elle a orienté la vie monastique dans l'Église grecque et l'Église latine, et elle était à la base de la règle de Saint Benoît. Revenons à notre Saint Basile, qui se s'était fait moine, et comme je vous ai dit, a écrit une règle qui est à la base, à la source de la règle de Saint-Benoît, dit-on. Et alors, bien qu'il était moine, il se passait des choses terribles dans l'Église, et ça l'émouvait beaucoup, il se sentait saisi par ça. Alors, l'Église était très persécutée à l'époque par les Ariens. Ce sont des gens qui niaient la divinité de Jésus-Christ. Et l'empereur Constance favorisait les Ariens. On avait réussi à installer un évêque au siège de Césarée, qui était Eusèbe, qui était un personnage vraiment catholique, mais il a fait violence à Basile pour lui faire recevoir la prêtrise. Il l'a forcé à devenir prêtre. Ça ne plaisait pas tellement à Saint Basile. Et alors Saint Basile est obligé de quitter sa solitude afin de revenir au lieu de sa naissance à Césarée. Et il a établi là une communauté de religieux avec lesquels il vivait dans la même règle qu'il avait établi dans le désert. Mais il cherchait à exercer son sacerdoce tel que l'évêque voulait qu'il le fasse, c'est-à-dire en prêchant la parole de Dieu, car c'est ça un prêtre. Il devait visiter des églises, réconcilier les pécheurs, les entendre en confession, les pardonner au nom de Jésus-Christ. Il fallait aussi qu'il soigne les malades, qu'il aille près des malades, les aider à bien mourir. Tellement d'autres fonctions que doivent exercer les bons prêtres. Et il se croyait vraiment attaché à ce ministère que Eusèbe lui avait conféré. Mais cet évêque a été pris d'une espèce d'instinct de jalousie. C'est curieux. Et il avait de belles qualités, cet Eusèbe, mais il regrettait un peu l'éloquence et puis la belle conduite puis l'expérience de Saint-Basile, hein. Alors donc, cette jalousie a entraîné une espèce d'inimitié entre les deux, surtout de la part de l'évêque Eusèbe, qui avait pourtant estimé Saint-Basile au début. Et Saint-Eusèbe a fait paraître au dehors, en parlant mal de Basile, en le persécutant de toutes sortes de façons. C'est curieux, hein, ça a toujours existé, ça, ces choses-là. Ça a irrité beaucoup de monde, cependant. Et le corps des religieux, l'ensemble des religieux s'est opposé à ça. Il y a même eu de saints évêques qui se sont rendus à Césarée, et puis qui ont trouvé que la manière violente et peu réglementaire dont l'évêque Eusèbe était entré dans l'épiscopat, ça ne leur agréait pas tellement. Il était entré dans l'épiscopat de façon un peu étrange. Il avait été ordonné évêque de façon curieuse. Alors, il y avait beaucoup de dangers que ne se forme un schisme dans la ville de Césarée. Alors, ça aurait été très préjudiciable à l'Église universelle, qui était déjà persécutée, comme je vous ai dit, par les Ariens, par l'empereur, hein. Alors, il était de grande importance que cette Église demeurât unie. Et Saint-Basile a sacrifié de bon cœur ses propres intérêts au salut de la conservation de l'unité de l'Église. Alors, il a quitté la ville. Il s'est retiré secrètement dans la solitude où il avait fondé son premier monastère, qu'il avait abandonné avec grand regret. Puis, il a trouvé dans la compagnie de ses moines, dont il était le père et le fondateur, beaucoup de bonheur, une satisfaction beaucoup plus grande que celle qu'il aurait pu avoir, évidemment, dans l'administration d'un diocèse, car c'est très difficile que d'être évêque et d'administrer un diocèse. Ce qu'il consolait surtout, c'était qu'il avait beaucoup plus de temps pour prier, pour s'unir à Dieu par la prière, la contemplation, pour s'appliquer à l'étude des lettres et de la Bible, ce qu'il aimait souverainement. Et au bout de 3 ans, l'évêque Eusèbe de Césarée a reconnu le besoin qu'il avait de Basile. Il a compris que la résolution que l'empereur Valence avait pris de venir à Césarée pour y établir l'arianisme et la foi des Ariens qui était contraire à la divinité du Christ, mais il n'y avait personne qui pouvait s'opposer plus efficacement à cet empereur que ce grand défenseur de la vérité qu'était Eusèbe. Il a pris instamment Saint Grégoire de Nazianze, le bon ami de Saint Basile, hein, et il lui a demandé de l'aider. Et alors, Grégoire de Nazianze s'est offert lui-même à être le médiateur, hein, pour la réconciliation. Il est allé chercher Basile dans son monastère pour le ramener à Césarée. Et Saint Basile oublier aussitôt toutes les raisons d'être mécontent, et puis ne crut qu'il était difficile de rester dans ce monastère pendant que les ennemis de Jésus-Christ foulaient aux pieds l'héritage de l'Évangile. Et puis l'empereur et les Ariens, qui pensaient profiter de l'absence de Basile puis de la difficulté qu'il y avait, l'espèce d'inimitié qu'il y avait entre l'évêque de Césarée, Eusèbe, et Saint Basile, on était bien étonnés de trouver Basile à Césarée. Ils n'ont pas pu supporter sa présence. Et Basile est monté en chair avec un courage invincible pour réfuter leurs erreurs, pour établir le problème clé. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire ce qu'on appelle, en termes théologiques, la consubstantialité du Verbe avec son Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Verbe, c'est-à-dire le Fils éternel du Père, Jésus-Christ, est consubstantiel avec le Père, c'est-à-dire qu'il ne forme qu'un seul Dieu. C'est tout le problème du mystère de la Trinité. Alors, il a voulu confirmer le peuple catholique dans cette ancienne croyance de leur Père. Ne pouvant résister à la solidité de ses arguments, ni à la force et au torrent de son éloquence, eh bien, les Ariens ont été contraints de se retirer sans rien faire, et Saint Grégoire de Nazianze a combattu avec son fidèle ami Basile, et après la fuite des hérétiques, comme on les appelait, ceux qui sont en dehors de la foi régulière, officielle de l'Église, ceux qu'on appelle les hérétiques, eh bien, après la fuite des hérétiques, le principal soin de Basile fut de ménager avec sagesse l'esprit d'Eusèbe. Il le fit si heureusement que Eusèbe l'a même pris pour son directeur de conscience et n'a plus voulu rien faire que par son conseil. Basile a répondu parfaitement à l'attente de tous les gens qui espéraient en lui. Il a été chargé des veuves, des vierges, des religieux, des ecclésiastiques, de la réconciliation des ennemis. Il exerçait même un pouvoir un peu légal pour dans les procès, parce qu'il avait été avocat. Et puis, il voulait surtout conserver la foi. Il était rempli de l'Esprit-Saint. Sa charité a éclaté merveilleusement dans toute une grande famine qui affligeait la Cappadoce, car on est en Césarée de Cappadoce. C'était des Grecs. Et surtout, la ville de Césarée, il n'y avait plus rien à manger. Alors, il a été extraordinaire. Et il s'est arrangé pour que ceux qui avaient accumulé du grain le distribuent aux pauvres. Il a rappelé la charité, la bonté. Il a fait tout son possible pour empêcher que la paix soit arrachée de la ville de Césarée. Il a commencé à bannir les débauches et tous les autres vices. Il a voulu établir parmi son peuple une manière de vivre toute chrétienne, toute sainte. Il a réglé même la psalmodie et le chant des offices. Il a même composé une liturgie qui est à la base, n'est-ce pas, de la grande liturgie orientale, orthodoxe. La façon de célébrer la messe, n'est-ce pas, le corps du Christ. Et c'est un très grand apport à l'Église grecque. Car quand on cherche dans la grande patrologie de Ming, c'est-à-dire les écrits des pères de l'Église, les fondateurs de l'Église pendant les 7 premiers siècles, les grands écrits, c'était colligé au siècle dernier par un prêtre du nom de Ming en France. Mais quand on regarde ces centaines et ces centaines de gros volumes, c'est dans la section grecque que l'on trouve les écrits de Saint Basile. Ça forme je ne sais combien de volumes. C'est immense ce qu'il a écrit, Saint Basile. Saint Basile pouvait dire, comme Job, que la miséricorde croissait en lui. Il avait beaucoup de compassion pour les pauvres, pour les malades. Il a fait construire des hôpitaux qu'on appelait les basiliades, de son nom. Il y en avait un dans Césarée. Et il y allait souvent. Et il aidait beaucoup les gens qui étaient malades. Il avait un souci pour ça. Il a eu le bonheur de voir son clergé se remplir d'excellents sujets. Il a attiré des vocations remarquables. Et puis s'il se trouvait des prêtres qui étaient répréhensibles, ben, il les corrigeait avec tant de courage et de fermeté, mais aussi beaucoup de bonté, que ces prêtres étaient obligés de se remettre à leur devoir de prêtre. Il y avait un curé de campagne comme ça, et notre saint Basile l'a obligé de mettre hors de sa maison une femme qui était à son service, mais qui était une femme un peu étrange. Et il ne se gênait pas pour faire observer ce qui devait être observé. Sa vigilance s'étendait même sur les autres évêques de la Cappadoce, cette région de Grèce, qui était ses suffragants, lui était archevêque. Et souvent, il les a avertis de se réformer, de changer de vie. Et ils ont eu l'admiration pour lui, puis se sont transformés, parce qu'il avait un don, une grande charité qui l'habitait. C'était vraiment un évêque qui avait des charismes exceptionnels. Il se regardait comme un évêque du grand corps de l'Église, plutôt que simplement comme un évêque de Césarée. Il était catholique au sens du mot « universel » et orthodoxe au sens du mot « de la véracité de l'enseignement ». Il a écrit au pape Saint Damase, de même qu'au grand Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie, à d'autres évêques, des plus recommandables de son temps, afin de s'unir avec eux contre tous ceux qui étaient en dehors de la véritable foi. Et il voulait travailler de concert avec eux pour faire entrer dans l'Église ceux que les erreurs avaient guidés en dehors. Il a cherché par un esprit qu'on appelle aujourd'hui d'écuménisme, un esprit d'union, d'unité, à réparer les divisions. Et ses soins n'ont pas été inutiles, car il a le bonheur de faire rentrer dans l'Église les Macédoniens en Grèce qui combattaient, eux, la divinité du Saint-Esprit. Et il a vraiment travaillé sur le dogme de la Trinité. Un seul Dieu, trois personnes. Il a été un très grand défenseur de cette foi en la Trinité qui est une foi difficile, mais qui est un objet de foi qui nous est révélé dans les Évangiles et dans le Nouveau Testament. Il n'a pas craint de défendre les grandes vérités fondamentales du christianisme au risque de se faire des tas d'ennemis. Mais au contraire, par sa grande bonté, il s'est fait des amis. L'empereur, à un moment donné, l'a accusé de mille choses par la bouche de Modeste, un dénommé Modeste qui était préfet du prétoire. Il a dit à cet accusateur, « C'est mon empereur qui est Dieu, et mon empereur me défend d'enseigner autre chose que la vérité. Je suis obligé de lui obéir. » Et l'autre, l'accusateur, lui a dit, « Mais nous, pour qui nous prenez-vous ? » Et Basile lui a répondu, « Je vous compte pour rien. Tandis que vous commandez de telles impiétés contre la volonté de celui qui est notre souverain maître. » Cette réponse a mis le préfet dans une telle colère qu'il a menacé de confisquer tous ses biens, de le bannir, de le tourmenter jusqu'à mort. Et Saint Basile lui a répondu, « C'est que je ne crains rien, car je n'ai point de biens, je suis pauvre. Comment pourriez-vous confisquer mes biens? Si tout le monde, l'univers entier, m'est un exil, alors d'où me chasserez-vous? Et où pourriez-vous m'envoyer? » Pour ce qui est de la mort, Saint Basile déclare, « Elle ne saurait être, à mon égard, qu'une faveur et un très grand bienfait, puisqu'elle me sera un heureux présage pour entrer dans le ciel qui est ma seule patrie. » Alors, le préfet Modeste a été si surpris de la fermeté de Basile qu'il n'a pas pu s'empêcher de l'admirer, puis il a dit tout haut que personne ne lui avait jamais parlé avec tant de liberté. Et Basile a ajouté, « C'est peut-être qu'il ne vous est jamais arrivé de traiter avec un évêque, car tout autre que moi, tout autre évêque, vous aurait répondu les mêmes choses, s'il s'était vu obligé de soutenir contre vous les mêmes combats. Lorsqu'il s'agit de la cause de Dieu, personne n'est plus résolu que nous, évêques, et nous ne considérons qui que ce soit, non pas même les ordres des princes et des empereurs. » Et après cette entrevue, que Saint Grégoire de Nazianze et Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Nice, c'est le frère de Saint Basile, et Théodore, un auteur, nous ont présenté dans des écrits avec beaucoup, beaucoup d'élégance. C'est très clair, c'est très bien fait. Et le préfet, Modeste, est allé au-devant de l'empereur Valens et lui a dit, « Seigneur, nous sommes vaincus. Cet évêque n'a point son semblable. Il ne faut point prétendre rien emporter sur son esprit. Il n'y a que la mort qui le puisse empêcher de résister à nos ordonnances impériales sur le fait de la religion. » Alors, Valens a été touché, lui, l'empereur aussi. Et puis finalement, Valens est allé assister à une messe célébrée par Saint Basile. Il a entendu son sermon, il a assisté à toute la cérémonie, et c'est avec beaucoup d'admiration, devant la grande affluence du peuple, qu'il lui est apparu comme une véritable mer, un torrent, que l'empereur a considéré avec étonnement aussi les ornements, la beauté du culte oriental, de l'église orientale. C'est très beau, hein, les messes de rite oriental. Et alors, il s'est senti presque au ciel, puis il a regardé d'une part avec une attention particulière ce grand archevêque, Basile, qui était à l'autel, le corps immobile, le visage rayonnant, les yeux élevés vers le ciel. Puis, Valens, l'empereur, a envisagé de l'autre ses ministres, droits sur leurs pieds, qui étaient saisis d'une grande frayeur et dans une vénération très profonde, devant la majesté du Christ. Et comme il n'avait jamais rien vu de pareil, ce spectacle l'a frappé vivement. Quand l'empereur fut à l'autel pour y offrir ses dons, personne ne se présentant pour les recevoir parce qu'il ne savait pas si Basile les accepterait, eh bien tout le monde a reconnu le trouble où il était, il a commencé à trembler, et quand le service a été achevé, bien Saint Basile a abordé fort respectueusement l'empereur et l'ayant remercié de l'honneur qu'il lui avait fait à son église, il l'a exhorté à changer d'attitude envers les catholiques. Et puis, il l'a rencontré plusieurs autres fois. Il lui a prouvé avec une éloquence divine la vérité de la foi catholique. Et depuis ce temps-là, bien Valens a eu un peu plus d'humanité pour les catholiques et même, il a fait de grandes aumônes à l'église de Césarée pour le soulagement des pauvres et des lépreux. Mais comme il était continuellement obsédé par les évêques ariens qui l'animaient contre Basile, ben il a pris enfin la résolution d'envoyer Basile en exil. Mais les ariens qui étaient dans la joie, les catholiques d'autre part fondaient en larmes. Mais finalement, il a changé d'avis puis il a gardé Basile. Alors, outre les persécutions dont nous venons de parler, bien, Saint Basile a souffert encore bien d'autres choses de la part de certains évêques, lesquels l'ont brusqué de temps en temps. Il faut dire que Basile était bien exigeant. Il y a eu des jalousies. Il y a eu même de faux rapports sur lui. Mais, finalement, tout s'est rentré dans l'ordre. Et on s'est plaint parfois de ce qu'il enseignait sur la Sainte Trinité, parce que c'était pas facile à accepter. Et c'est un problème un peu compliqué sur le plan théologique, mais de toute façon, Saint Basile étant tombé malade, il a fait appeler un médecin juif qui était à Césarée, sous prétexte de prendre son avis sur la qualité de son mal. Et c'est un juif qui l'a aidé à mourir. Alors, ce fut dans la joie qu'il a rendu l'esprit, le 1er janvier de l'an 379. Il n'avait que 49 ans. Et le Juif a déclaré, « En vérité, grand serviteur de Dieu, si vous l'aviez voulu, vous ne seriez mort aujourd'hui, non plus qu'hier. Mais puisque vous êtes mort, c'est parce que vous l'avez voulu. » Et les Juifs, les païens et tous les gens ont rendu hommage. Les étrangers se sont disputés avec les catholiques de la ville à qui donnerait plus de marques d'estime et d'affection pour un évêque aussi extraordinaire. Et Saint Grégoire de Nice, son frère, Saint Grégoire de Nazianze, son ami, son plus intime ami, même Saint Éphrem, aussi qu'il respectait infiniment, en ont parlé avec beaucoup d'honneur. Et c'est de ses auteurs et de quelques autres qui ont écrit peu de temps après, comme Saint Jérôme, Théodore, puis d'autres, qu'il faut tirer ce qu'il y a de certain de son histoire. Et on le célèbre dans l'Église latine le 4 juin, mais on le célèbre ailleurs dans l'Église grecque à une autre date. Et voilà que ce saint Basile, qui est un très grand saint, est malheureusement bien oublié de nos jours. Saint Valère est honoré avec saint Rufin. Je en parle parce que c'est par amitié pour un prêtre que j'aime beaucoup, qui est le fameux père Valère, aumônier de Saint-Charles-Borromée à Montréal, ce centre hospitalier sur le boulevard René-Lévesque, près de Saint-Laurent. Celui qu'on appelle l'hôpital du cardinal, n'est-ce pas? Où a vécu Claude Brunet, qui, à mon avis, était un saint. Et le père Valère, bien voilà, je lui souhaite une bonne fête aujourd'hui, à l'occasion de la fête de Saint Valère et de Saint Rufin, martyrs du IVe siècle. Le culte rendu à ces deux saints est très ancien. Ils étaient tous deux chargés d'administrer les greniers impériaux en France, dans l'Aisne, à Bazoches. Ces greniers qui avaient été construits sur la grande route qui menait de Rome en Bretagne. C'est-à-dire que ça prenait des greniers, n'est-ce pas, pour nourrir l'armée. Et cette situation permettait à nos deux, Valère et Rufin, d'avoir un grand rayonnement apostolique en tant que catholiques. Et un jour, ils ont appris qu'un barbare du nom de Rictiovarus, qui était très cruel, approchait. Alors, connaissant qu'il était un persécuteur des chrétiens, se sont enfuis, se sont cachés dans une grotte du voisinage, mais ils ont été découverts. Et Rictiovarus les a condamnés immédiatement à être noyés dans une rivière tout près. L'évêque de Soissons-Saint-Loup a fondé en 525, à l'endroit où ils sont morts, à Bazoches, une communauté de 72 moines, auxquels fut confiée la garde des corps de ces deux martyrs. Mais ce monastère a été supprimé en 1661, et les reliques de Saint-Valère et de Saint-Rufin, après des voyages multiples, ont été déposées dans la cathédrale de Soissons. C'est donc à Soissons qu'on peut honorer Saint-Valère. Voici, je vous lis en terminant, un beau texte de Saint-Basile de Césarée, le grand saint d'aujourd'hui, 14 juin. Il écrit à Saint Grégoire de Nazianze, son grand ami. Je le lis dans une traduction d'un moine, dont Léon Leb. Une excellente méthode à suivre pour s'initier à la perfection, c'est la méditation de la Bible. On y trouve des règles de conduite. De plus, les histoires des bienheureux y sont narrées comme autant d'exemples expressifs de la vie selon Dieu. Et elle nous invite à l'imitation de leurs bonnes œuvres. Comme quoi, il tenait à ce qu'on lise les vies des saints. Saint Basile ajoute, « Chacun donc s'attardera de préférence au passage qui traite des vertus dont il reconnaît avoir spécialement besoin, et, comme d'une pharmacie à la portée de tous, il en tirera le remède approprié à son mal. Celui qui aime la chasteté feuilletera assidûment l'histoire de Joseph. » Et apprendra de lui quelles sont les actions inspirées par la tempérance, en le voyant non seulement résister à la volupté, mais encore s'affermir par l'habitude dans la vertu. Il ajoute que Job est un modèle de force d'âme, David enseigne la patience, la douceur, le courage, Moïse supportait les injures personnelles, mais vengeait avec éclat les outrages à Dieu. Il termine en disant, lorsque les peintres copient un tableau, ils lèvent constamment les yeux vers l'original et s'efforcent d'en reproduire dans leur ouvrage les formes et l'expression. Et Saint Basile ajoute, quiconque essaie de se perfectionner dans toutes les espèces de vertus doit de même étudier la vie des saints comme autant de modèles vivants et pratiques et ensuite, par une diligente imitation, s'approprier le bien qu'il découvre en eux.